Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Almeida. Dans cet épisode, nous partons pour Notre-Dame de Paris. 855 ans d'histoire de France, concentrés dans un vaisseau de pierre.
Depuis l'autre bout de Paris, depuis l'ouest de Paris, la fumée est tellement épaisse qu'on a même des projections de morceaux de cendres qui tombent sur nous. Immense panache de fumée qui continue de s'élever de Notre-Dame. On voit très distinctement les flammes, effectivement juste en dessous des échafaudages dont vous parliez tout à l'heure. C'est peut-être de là qu'a pu partir le sinistre.
Le lundi 15 avril 2019, les Parisiens ont été médusés par cet incendie qui a ravagé Notre-Dame. Sa toiture a été détruite. On a cru que le pire allait arriver, que le bâtiment allait s'effondrer. Mais il a survécu. Il a survécu comme il tient, dans l'histoire, depuis 855 ans, une place unique. C'est ce concentré de rapport à la nation, cet effort incroyable pour tenir ensemble les Français que nous allons réviser aujourd'hui, que nous allons visiter. Et notre histoire commence un jour singulier de 1970. Ce 12 novembre 1970, la République se concentrait à Notre-Dame de Paris. Il y avait là plus de 80 chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier. On reconnaissait le profil de Richard Nixon, le menton bien levé, pour que chacun reconnaisse la dignité de son attitude. On repérait aussi le gouvernement français et le président de la République, Georges Pompidou. Une personnalité cruciale venait de s'éteindre, celui dont le nom était devenu pratiquement synonyme de France, au sein de la nation et à l'étranger. Charles de Gaulle s'était éteint le 10 novembre 1970. Alors bien sûr, il y avait eu ses obsèques particulières à Colombelles-les-Deux-Églises, avec les gens du village et les compagnons de la Libération. Et puis, allait venir cette messe d'État, cette cérémonie officielle, sous le regard de Félix Houphouët-Boigny, d'Indira Gandhi et de tant d'anonymes. Celui dont la voix allait s'élever dans l'église n'était autre que Monseigneur le cardinal Marty, archevêque de Paris, qui accueillait les admirateurs et les soutiens de Charles de Gaulle.
Mes frères, nous sommes rassemblés pour la prière ou le recueillement. Je vous accueille dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et vous invite à entendre la parole de Jésus-Christ. Cette parole est adressée à tous les hommes. Par grâce, Charles de Gaulle lui a donné sa foi. Notre assemblée, à laquelle s'unissent des millions d'hommes en France et dans le monde, prouve quelle place tenait celui qui vient d'être appelé soudainement dans son éternité.
Maintenant, nous chantons le Magnificat, ce Magnificat qui retentit le 26 août 1944 dans cette cathédrale, entonné par le général.
C'était comme une évidence. Notre-Dame est devenue le lieu où la nation se réunit aux heures les plus graves, aux heures les plus importantes. Aussi bien la République que la monarchie ont su utiliser ce lieu particulier dont l'histoire commence bien longtemps auparavant, à une époque où Notre-Dame n'existait pas. Pour le comprendre, il faut revenir en 1160, quand l'évêque de Paris, Maurice de Sully, décide de construire un nouvel édifice. Car sur l'île de la Cité, il existait déjà une petite cathédrale romane. Elle s'appelait Sainte-Marie. Elle était adossée à une autre église, Saint-Étienne, et ce complexe était celui où les Parisiens de l'époque se retrouvaient. Mais vraisemblablement parce que le lieu était trop petit, parce que ces édifices n'étaient plus assez visibles dans la cité, Maurice de Sully pense qu'il est nécessaire de bâtir une nouvelle cathédrale. Et c'est ainsi qu'il en prend la décision en 1160 et qu'il va convaincre les pouvoirs, pouvoir national, pouvoir local, de soutenir son projet. Celui qui règne à l'époque n'est autre que Louis VII. Oh, la France est un tout petit pays. Elle est encore réduite très largement à l'Île-de-France, au domaine royal. Elle a commencé à reprendre du pouvoir dans la direction de la Normandie, puis vers le sud. Mais il n'empêche, ce n'est pas encore cette grande France hexagonale que nous connaissons. Louis VII accepte de soutenir le projet de faire une vaste cathédrale qui manifeste la puissance du diocèse de Paris et son autonomie par rapport aux autres pouvoirs religieux. Et c'est ainsi qu'à partir de 1163, on commence à bâtir la nouvelle cathédrale dédiée à la Vierge Marie. Ce sera Notre-Dame de Paris. Il faudra pratiquement deux siècles pour terminer cette église qui a décidé de promouvoir un nouvel art architectural, l'art gothique. Elle en est une des expressions les plus magnifiques avec ses arcs brisés qui lui permettent d'élever une magnifique voûte vers le ciel. Cela, ce sera l'esprit de Notre-Dame de Paris. Il faudra une première tranche de travaux jusqu'en 1250, ce qui donnera 107 ans, longue durée pour la construction qui deviendra proverbiale, mais en réalité Notre-Dame de Paris ne sera finie, telle que nous la voyons aujourd'hui, qu'avec la constitution de ces magnifiques arcs-boutants qui seront achevés au milieu du XIVe siècle. Durant tout ce temps, les rois se sont tenus aux côtés des bâtisseurs. L'un d'entre eux est même allé plus loin. C'est Louis IX. Vers la fin du XIIIe siècle, alors que la nef est achevée, Saint Louis, lui, décide de se lancer dans des croisades. Et il va en rapporter des reliques particulièrement précieuses. Et notamment une couronne d'épines qui lui a été vendue par l'empereur de Constantinople et qui est censée être la couronne d'épines que le Christ portait au moment de sa crucifixion. Un objet donc d'une grande piété, d'une grande valeur religieuse. Saint Louis va le payer 125 000 livres tournois, c'est-à-dire plusieurs millions d'euros actuels. Cette relique, il va l'apporter en grande procession à Notre-Dame de Paris en endossant une simple tunique et en marchant pieds nus pour rentrer dans l'édifice. Cette sainte couronne sera ensuite installée à la Sainte Chapelle. Plus tard, elle va revenir à Notre-Dame de Paris, où elle était encore au moment de l'incendie, et depuis, elle est protégée dans un coffre à la mairie de Paris. Mais revenons à cette histoire des rois et de Notre-Dame. Notre-Dame devient le lieu où les rois allient une légitimité religieuse et un sens de l'État. C'est pour cela que Philippe le Bel choisit d'ouvrir ses états généraux en 1302 dans la cathédrale, manière de montrer qu'il y a une souveraineté religieuse française opposée au pape avec lequel il était en conflit. Pour la même raison, les rois vont régulièrement se retrouver à Notre-Dame de Paris, qui devient leur église. Les funérailles, par exemple, font l'objet d'une messe solennelle avant que la dépouille du souverain ne soit conduite à la nécropole de Saint-Denis. Un moment mérite d'être cité. Ce sont les funérailles de Charles VI. Il s'était éteint le 21 octobre 1422. Il a fallu attendre plusieurs semaines avant que finalement ait lieu la messe solennelle à Notre-Dame le 9 novembre 1422. Ce jour-là, tous les commerces avaient été fermés. Il n'y avait aucune activité dans Paris et vers 4 heures de l'après-midi, un cortège a quitté l'hôtel Saint-Paul où se trouvait le roi pour le conduire vers Notre-Dame. Il y avait là, comme toujours, les pauvres, plus de 250 qui suivaient le cercueil, puis les gens d'église et les représentants de l'hôtel du roi. Bref, une vraie procession pour arriver à Notre-Dame. Elle avait quelque chose de singulier. Pour la première fois, un cercueil enfermait le corps du roi qui n'était pas visible. Mais au-dessus, on avait mis une effigie sur laquelle on avait reporté tous les insignes du pouvoir royal, les anneaux, le sceptre, le manteau. En fait, c'est une des premières fois qu'en France, on appliquait la théorie des deux corps du roi. Le corps mortel du roi était dans le cercueil, tandis que le corps immortel de la monarchie était cette effigie qui était posée dessus. Et on comprend donc que la messe de Notre-Dame était l'occasion de célébrer la pérennité de l'État monarchique. C'est ainsi que Notre-Dame occupe une place particulière dans la légitimité de la royauté française. Cette place va être encore renforcée par d'autres occasions solennelles, les mariages par exemple. Car à Notre-Dame, on s'est beaucoup marié dans l'histoire des rois de France. Et ces mariages, d'ailleurs, ont introduit l'histoire de Notre-Dame dans celle des grands royaumes européens. C'est ainsi que le 19 avril 1558, la reine d'Écosse, Marie Stuart, a épousé l'héritier de la couronne de France, François. Ou encore le 22 juin 1559, l'année suivante, Élisabeth de France épouse le roi d'Espagne, Philippe II. On mesure à quel point la diplomatie est entrée dans Notre-Dame et l'on comprend mieux pourquoi, encore dans les années 70, elle avait son droit de cité aux funérailles de Charles de Gaulle. Mais continuons notre cheminement, car un autre mariage très important a lieu toujours au XVIe siècle. Nous sommes en août 1572. C'est le mariage d'une princesse catholique, la reine Margot, c'est du moins le nom qu'elle va avoir bientôt, avec Henri de Navarre, un des chefs du parti protestant français. Il faut se rappeler que c'est l'époque de la guerre civile entre catholiques et protestants. Et ce 22 août 1572, sur le parvis de Notre-Dame, afin que tous les responsables politiques le voient, que chacun des camps opposés puisse en témoigner, les deux jeunes gens se marient avec la bénédiction du cardinal de Bourbon. La reine Margot a décrit ce mariage dans ses souvenirs.
Nos noces se firent avec autant de triomphe et de magnificence que de nul autre de ma qualité. Le roi de Navarre et sa troupe y ayant laissé et changé le deuil en habits très riches et beaux, et toute la cour parée, et moi habillée à la royale avec la couronne et quédermine mouchetée, toute brillante des pierreries de la couronne, et le grand manteau bleu à quatre aulnes de queue porté par trois princesses. Les échafauds dressés à la coutume des noces des filles de France depuis l'évêché jusqu'à Notre-Dame, et parés de draps d'or, le peuple s'étouffant en bas à regarder passer sur cet échafaud les noces et toute la cour. Nous vîmes à la porte de l'église où Monseigneur le cardinal de Bourbon, qui faisait l'office ce jour-là, nous ayant reçus pour dire les paroles accoutumées en tel cas, nous passâmes sur le même échafaud jusqu'à la tribune qui sépare la nef d'avec le cœur.
Malheureusement, ce n'est pas la paix qui va s'imposer mais la guerre. Car le 24 août 1572, les protestants présents à Paris, venus pour le mariage, seront tous massacrés. Ce sera un des moments les plus tristes des guerres de religion. La monarchie n'en continuera pas moins à utiliser Notre-Dame. Pourtant, il faut le dire, avec Louis XIV et Louis XV, on a l'impression que la vieille cathédrale est moins appréciée qu'auparavant. Peut-être parce que l'un a construit Versailles, et que l'autre était en train de bâtir Sainte-Geneviève, une église qu'il voulait à sa façon. Si bien qu'à la veille de la Révolution française, Notre-Dame est bien un emblème de la monarchie, un de ces lieux où l'on entend les cloches sonner lorsqu'il y a une naissance, des funérailles, une grande victoire française. Mais elle devient un lieu un peu moins fréquenté qu'auparavant. D'ailleurs, pendant la Révolution, on peut dire qu'elle est même frappée d'une forme d'interdit. Il y a bien une tentative d'en faire un temple de la raison. Mais bientôt, la cathédrale est considérée comme une sorte d'entrepôt par les révolutionnaires qui ne sont pas sûrs de vouloir maintenir le culte en ce lieu. C'est pourquoi l'arrivée de Napoléon au pouvoir va tout changer. Pour le comprendre, il faut aller le 2 décembre 1804. Imaginez-vous. Un gigantesque portique de bois installé sur le parvis, puis une galerie couverte qui en part pour emmener le public vers l'intérieur de la cathédrale. La cathédrale a d'ailleurs été entièrement redécorée. Pour l'occasion, les murs ont été blanchis à la chaux et ils doivent faire ressortir les belles dorures qui ont été ajoutées. Un ensemble complet a été construit à l'intérieur avec des colonnades de style grec, des parements de bois recouverts de feuilles de chêne. Tout a été mis en place aussi pour accueillir une vaste foule dans la hauteur. On a donc constitué des gradins, des sièges, avec des voilages pour en accroître la solennité. Bien sûr, tout ce style plutôt néoclassique a quelque chose d'étrange dans cette cathédrale qui avait été voulue dans le plus pur style gothique. Mais chacun fait de ne pas remarquer le télescopage des styles. Au fond, on est en train de vivre un moment historique. Pendant que le public s'installe, dans une tente installée sur le côté de l'archevêché, Napoléon et Joséphine se préparent. Ils ont revêtu leurs habits de cérémonie et chacun s'apprête à vivre ce moment solennel. Napoléon va entrer sur le côté et après avoir solennellement ceint la couronne impériale sur sa tête, il va s'asseoir au milieu de la nef sur un trône qui a été préparé à son intention. Ça y est, il est sacré. Il est l'empereur des Français. À la sortie, 101 coups de canon sont tirés, tandis que la foule lance des vivas et s'extasie devant ce qui commence à être la geste impériale. Cette geste impériale, précisément, elle croise encore l'histoire de Notre-Dame. Car Napoléon va décider de prendre le trésor de la Sainte-Chapelle et de l'installer définitivement dans celui de Notre-Dame. La couronne d'épines va donc entrer dans la cathédrale. Et puis, encore en 1811, Napoléon fera baptiser le prince impérial dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si bien que pour les bonapartistes, plus que pour les révolutionnaires, la cathédrale est devenue un lieu particulier, un symbole de la grandeur des temps. Alors évidemment, quand après 1814-1815, l'Empire s'effondre, que la monarchie renaît, une partie d'entre eux va garder la nostalgie pour ce lieu. Et l'un d'entre eux, un relativement jeune homme, qui s'appelle Victor. Victor Hugo viendra souvent se promener dans la cathédrale. C'est là qu'un jour, il repérera sur un mur un mot effacé dans une langue étrangère, le grec, le mot « fatalité ». C'est ce mot qui lui donnera l'idée d'écrire un nouveau roman en 1831. Un roman consacré à la cathédrale, Notre-Dame de Paris, car ce tout jeune homme est le fils du général Hugo, un des compagnons d'armes de Napoléon. Et il va défendre ardemment la réfection de Notre-Dame dont il trouve qu'elle est en train de tomber en lambeaux. On murmure que pendant la Révolution, certains n'ont pas hésité à se servir même de pierres de la cathédrale pour essayer de faire des constructions chez eux. Et voici que Hugo, grâce à son roman, va changer l'image du monument, va lui rendre son attractivité. Mais oui, car la cathédrale, qui était le plus haut monument de Paris sous l'Ancien Régime, qui a été pendant tant d'années un lieu de pèlerinage pour les étrangers qui venaient en visite dans la capitale, avait perdu du lustre. Avec Victor Hugo, elle va le retrouver. Elle devient une cathédrale romantique. Il faut lancer un appel à souscription pour obtenir de l'argent et de quoi renforcer ses murs menacés par l'usure du temps. C'est grâce à cet appel que la monarchie de Juillet et puis surtout le Second Empire, vont se lancer dans des travaux de rénovation et de réfection de la cathédrale. Ils seront confiés à deux architectes, Lassu et Viollet-le-Duc, qui vont rendre à cet édifice tout son brio. C'est Viollet-le-Duc qui a notamment l'idée de refaire la flèche de 93 mètres de haut qui avait été démontée au XVIIIe siècle car elle menaçait de s'effondrer. Cette flèche qui nous a particulièrement émus quand elle a été emportée par les flammes. Curieusement, Victor Hugo avait prévu qu'il pourrait un jour y avoir un incendie et, de manière prémonitoire, avait écrit dans Notre-Dame de Paris le moment singulier où le feu pourrait se déclencher sous le toit. Écoutez cet extrait qui a été beaucoup lu ces derniers jours.
Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau de fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade intérieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes, comme l'eau qui jaillit des mille trous de l'arrosoir.
Les flammes d'aujourd'hui sont les échos des flammes d'hier et elles ont emporté cette flèche que Viollet-le-Duc avait voulu adapter à ce style néo-gothique qu'il appréciait tant. Viollet-le-Duc, auquel nous devons notamment les visages d'un certain nombre de statues, dont une qui le représente, celle de Saint Thomas, et puis bien sûr ces gargouilles qui sont devenues un des objets de fantasmes extraordinaires pour tous les enfants qui visitent la cathédrale. Mais on aurait pu penser qu'à partir de là, avec l'effondrement du Second Empire, la cathédrale serait tombée dans l'oubli. C'était ignorer la ferveur des Français pour ce monument. car avec la Troisième République, elle va retrouver une place dans le cérémonial national. Et cette place, elle le doit à un homme et surtout à sa femme. Lorsqu'il est assassiné, le 24 juin 1894 à Lyon, le président Sadi Carnot va immédiatement déclencher une vague d'émotions. Sa veuve se moque bien que la Troisième République soit anticléricale. Elle demande qu'il y ait un arrêt à Notre-Dame et une messe qui soit dite pour son défunt mari. Et c'est ainsi qu'au milieu du cérémonial, alors que vers 10h du matin, le cercueil est conduit des Champs-Élysées vers le Panthéon, il s'arrêtera pendant une heure dans la cathédrale où se déroule le service funèbre. À partir de l'enterrement de Sadi Carnot, il devient clair que la Troisième République admet la présence de Notre-Dame, la religieuse Notre-Dame, la catholique Notre-Dame, dans le cérémonial officiel de l'État. Ce sera le cas pour les hommages rendus à Louis Pasteur dès 1896, puis à Maurice Barrès, à Paul Doumer et même au commandant Charcot. La République, au fond, aime ces monuments. De fait, c'est elle qui est chargée de leur entretien depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Les monuments sont prêtés à l'Église catholique, mais c'est bien à l'État de les entretenir. Et Notre-Dame a continué son histoire extraordinaire, avec évidemment ses heures un peu sombres. Car pendant la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale continue de fonctionner. Elle est même l'objet d'une attention particulière des soldats allemands qui, en bons touristes, viennent la visiter. Mais il y a une histoire sombre de Notre-Dame. Celle de la compromission de son archevêque, Mgr Suard, avec le régime de Vichy. Une cérémonie le montre plus que tout. Le 2 juillet 1944, alors que le débarquement a déjà eu lieu, Mgr Suard accepte de rendre une messe particulièrement solennelle au ministre défunt, Philippe Henriot, chargé de la propagande par le maréchal Pétain, mais surtout membre de la milice, cette institution qui n'hésitait pas à massacrer les maquisards, à pourchasser les résistants et à arrêter les juifs de France. En somme, les résistants regardent Mgr Suard comme quelqu'un qui s'est compromis avec le régime de Vichy. Or, quelques semaines plus tard, la progression des Alliés, le soulèvement national de Paris, permettent la libération de la capitale. Et cela nous amène à ce jour extraordinaire, le 26 août 1944. Le 26 août 1944, Paris a été libéré. Et le général de Gaulle décide de se rendre à Notre-Dame pour un Tédéum, pour une messe de victoire et pour aussi entendre un Magnificat. Le général de Gaulle a bien pris soin de demander que soit écarté Mgr Suard. C'est un autre prélat qui va officier. Quant à lui, on lui a réservé une place spéciale. Elle a été aménagée au milieu de la cathédrale, sur une chaise, la chaise des présidents de la République. La cérémonie se déroule sans encombre et pourtant, à la sortie, des coups de feu retentissent. A-t-on essayé de tuer le général, peut-être, mais en tout cas, lui ne s'est pas incliné. Il n'a pas eu peur alors que chacun se cachait, chacun essayait de se protéger des coups de feu, lui a continué imperturbablement à avancer vers son véhicule avant de s'éloigner. Le 26 août 1944, c'est donc la fête de la libération de Paris et Notre-Dame y était évidemment associée, mais pas seulement par son lieu, mais aussi par ses cloches qui avaient retenti pour faire savoir à tous les Français que la France était de retour dans les grandes manœuvres du monde. Alors depuis, évidemment, la cathédrale est entrée plus que jamais dans le cœur des Français. Elle est toujours l'un des principaux lieux les plus visités par les touristes qui viennent à Paris. Notre-Dame, c'est plus de 14 millions de visiteurs aujourd'hui. Ce sont plus de 2000 cérémonies en tout genre chaque année, des baptêmes, des mariages, des funérailles. Et encore à chaque fois, ces funérailles nationales, comme celle de Georges Pompidou en 1974, ou celle de François Mitterrand en janvier 1996. Curieux moment, curieuse situation, que de voir le peuple de gauche tourner vers Notre-Dame de Paris, où l'on honorait religieusement l'un de ses leaders.
Pour les malades, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Seigneur,
François Mitterrand trouve en ce peuple des saints l'aide, le pardon et le courage pour ouvrir enfin ses yeux sur l'invisible.
Et puis, il y a toujours ces moments qui plaisent, ces moments que nous regardons avec une attention particulière, comme par exemple ce changement des cloches en mars 2013. On réinstallait ces solennelles cloches de Notre-Dame de Paris qui faisaient écho à notre histoire.
Et ces cloches que vous entendez, elles sont toutes neuves, elles sont perchées à près de 60 mètres de haut, ce sont les toutes nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris.
Avec le son des cloches, c'est tout l'espoir qui revient. Car quand nous avons vu cet incendie le 15 avril, aux alentours de 20h, quand s'est effondrée la flèche de Notre-Dame, certains ont pensé que tout était perdu. C'était ignorer que cette masse de pierre, solide, était capable de résister au temps. Pendant plus de 850 ans, elle y est parvenue, symbole stable, fidèle, solide, de cette nation qui sans cesse s'est tournée vers elle, dans les heures de joie comme dans les heures de peine. Avec la reconstruction de Notre-Dame, s'ouvre aujourd'hui une nouvelle ère, mais se poursuit à travers elle la grande histoire de France. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Thomas Caillet.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.